coq chante et les jours paraît, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Florence.
Ah, d'accord. Parce qu'il y a Monsieur Constantin.
Monsieur Constantin est derrière.
D'accord. Bonjour.
On va par là.
Oui.
Aujourd'hui dans le Coq Chante, nous allons parler d'agriculture urbaine et de permaculture. Et pour cela, nous visitons l'agro-cité de la ville de Bagneux. Bagneux est une commune française du département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France, au sud de Paris, sur la vallée de la Bièvre. L'affaire est complexe puisqu'elle touche nos modes de production agricole, nos modes de consommation, l'habitation, la solidarité entre les humains. Et comme toute histoire, il y a une genèse que nous raconte Pascal Mecker.
Alors, je suis Pascal Mecker. Je suis historiquement membre d'une association qui s'appelle Bagneux Environnement. Et depuis 2008, je suis au conseil municipal de la ville et maire adjointe depuis 2014.
Alors justement, nous sommes là parce que cette agro-cité, c'est une expérience d'agriculture urbaine. Et moi, je voudrais savoir comment ça a commencé cette affaire.
Alors, comment ça a commencé? La première chose, c'est que j'ai rencontré l'initiateur, le concepteur de ce qu'on appelle une agro-cité, dont j'avais vu une expérience à Colombes à l'époque, qui correspondait à un bâtiment important, tout en recyclage, en bois, travaillé en bois, qui servait à la fois de lieu de rencontre, de serre, bâtiment entouré de jardins. Mais dans ce bâtiment, il se passait aussi des activités de transition écologique et sociale. C'est-à-dire comment faire travailler ensemble à la fois des citoyens, des associations sur le sujet de la transition écologique. Comment faire demain pour dépenser moins d'énergie, pour vivre bien quand même, pour pouvoir cultiver ses légumes, pour pouvoir apprendre à faire des objets, à moins gaspiller, toutes ces choses qui sont un peu compliquées, qui appartiennent à notre époque, qu'il va falloir absolument développer. La question environnementale, personnellement, me passionnait. Comment faire pour que les populations ne souffrent pas trop du changement climatique à l'avenir. Alors ça a commencé concrètement comment? Une fois que j'ai fait visiter un peu Bagneux à Constantin, je lui ai dit ce serait bien si tu pouvais faire quelque chose ici. Il m'a dit d'abord moi je veux rencontrer les associations et les citoyens. Donc la première réunion c'est un mois de janvier 2015, quelque chose comme ça, il faisait froid dans une salle et je lui ai fait rencontrer des personnalités de la ville engagées associativement pour qu'il explique son projet. Et à ce moment-là, un certain nombre de personnes, des associations, mais aussi des citoyens, il y a eu des réunions de construction, de concertation, on a décidé ensemble de chercher un lieu. Puis après, on est allé voir la mairie. Et le maire, Madame Marie-Hélène Amiable, contre toute attente, a dit « ici ». Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est installé ici. Et après, ça a été assez long, mais le début, c'est ça.
D'accord. Vers vous, parce que vous êtes l'accusé.
D'accord.
Donc, en fait, si j'ai bien compris, monsieur Constantin, vous êtes architecte au départ, puis vous êtes dit la façon dont on construit les maisons, la façon dont on vit, la façon dont tout ça, il faut vraiment que ça évolue.
Et donc, moi, je suis architecte très engagé, militant. Et donc, je suis...
Ah ben ça, je l'avais compris.
Ouais, je suis premièrement, en fait, citoyen du monde, et c'est un monde qui va pas très bien. Et donc, ça fait une vingtaine d'années qu'avec un collectif qui s'appelle Atelier d'architecture autogérée, parce qu'en fait, on essaie de mettre en place des lieux qui, petit à petit, deviennent autogérés par les usagers, qui deviennent aussi porteurs de projets. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on essaie de changer déjà notre métier, donc de faire autrement l'espace, les bâtiments, les usages, le voisinage, etc. Et donc, à partir de 2008, on a lu quelque chose qui nous a révolté. En fait, il y avait des analystes, des scientifiques de très très haut niveau, le plus haut niveau, qui disaient que contre les crises globales, on ne peut rien faire autrement qu'agir par des décisions et des actions globales. Parce que le changement climatique, tu peux pas le régler, lutter à échelle d'une commune, parce que tu peux pas même lutter contre les crises économiques ou de biodiversité à l'échelle d'un pays, parce que c'est toujours global. Et donc, on s'est dit qu'en réalité, on pourra agir à échelle locale contre les crises globales, changement climatique, biodiversité, ressources, énergie, etc. Et que par effet d'exemple, d'exemplarité, de mieux vivre comme ça, en fait, qu'on pourra avoir des effets globaux.
C'est-à-dire que, par exemple, au niveau d'un village, ou au niveau d'un quartier, par exemple, de la ville de Dakar, je peux contribuer à mutualiser, à mettre les citoyens ensemble pour qu'on apprenne une autre façon de produire, une autre façon de vivre.
Mais il faut y croire et il faut être petit à petit nombreux. Parce que si tu commences et si tu restes tout seul, tu vas rien faire. Tu vas être découragé après. Mais l'idée, c'est que il faut tenir bon, il faut convaincre d'autres, il faut convaincre, comme disait Pascal, des administrations. Évidemment, il y a des assos qui sont déjà éveillés, qui sont déjà dans ce type de dynamique. Il faut aussi créer les bons rapports, la bonne entente, etc. Ce qui n'est pas toujours de le départ évident. Et petit à petit, mettre toutes ces énergies ensemble et ça fait après rayonner. Et donc ça, c'est une idée qui nous a fait lancer le projet Urban en 2008, Air Urban, mais à l'époque c'était vraiment Air comme résilience, comme recyclage, comme d'autres. Et à l'époque, on était très novateurs, donc on a eu la chance de trouver des échos à échelle européenne qui ont financé en grande partie le projet évoqué à Colombes. On a eu aussi la chance de trouver une municipalité suffisamment ouverte, parce que c'était très nouveau à l'époque, et donc il y a une agrocité qui vient d'être inaugurée, mais la dynamique elle existe depuis une année et demie, donc on est sur le terrain depuis presque deux ans. On prépare un recyclable et il y a une asso qui prépare une ressourcerie avec un Fab Lab en fait, et on peut envisager d'autres types d'unités. L'idée petit à petit c'est de créer un réseau de lieux de transition écologique citoyenne.
Architecte engagé, la transition écologique, en un mot, la réparation des dégâts que l'homme a causés à l'environnement, ces actions de transition écologique commencent par nos façons de construire et d'habiter. Voilà pourquoi Constantin Petkou a tenu à me faire voir ce qu'il appelle une éco-habitation. D'accord, vous vouliez me montrer les toilettes ?
Les toilettes, c'est très important dans le futur aussi. Et même la NASA, il s'en occupe beaucoup. Et nous...
Mais la NASA, c'est obligé parce que c'est une fusée.
Évidemment, qu'est-ce qu'on voit aussi. Et donc, mais dans le futur, on doit tous s'en occuper parce qu'on est... Les toilettes avec chasse d'eau, c'est très mauvais pour la planète. Et donc, nous, on utilise toujours des toilettes sèches, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccordé aux égouts, donc on ne pollue pas. Ni pour les toilettes, mais ni pour les eaux grises de la cuisine, de la douche. Et donc, tout ce qui vient des toilettes, il vient dans ce récipient-là. Mmh. Et l'urine, elle est séparée du reste. Et l'urine, vous voyez le tuyau en dessous de votre pied. Mmh. Et elle rejoint les eaux grises par un tuyau en dessous du bâtiment.
Ah oui, ça, ce que vous appelez eau grise, c'est ça?
Ça, c'est les eaux grises, voilà. Mmh. Et après, ça va entrer dans un bassin de phytoépuration. Et donc, c'est des plantes qui dépolluent les eaux grises, plus l'urine. Mmh. Et on a un autre bassin d'infiltration. Et puis, l'eau propre, nettoyer et l'utiliser pour arroser le jardin. Et en plus, on a des collecteurs de l'eau pluviale, vous voyez, comme ici. Et si vous regardez, en dessous du bâtiment, on a comme des gros citernes souples. On les voit là, vous les voyez.
Oui.
Il n'y a pas des algues qui apparaissent, en fait, c'est beaucoup, beaucoup mieux. En fait, c'est à l'ombre, c'est dans le froid, c'est sans lumière. Et donc, il y a des circuits courts à l'intérieur du bâtiment et entre le bâtiment et le terrain. Et donc ça c'est le futur en fait de l'architecture écologique. En fait on recycle tout, donc on n'a pas de déchets ni de l'usage de bâtiments et de nous-mêmes en fait. Tous les déchets sont recyclés par le bâtiment lui-même. C'est zéro, l'empreinte écologique du bâtiment c'est zéro et de l'usage aussi.
Et donc ce que moi j'appelle agriculture urbaine, en réalité c'est comment nous allons produire sans continuer à détruire la planète comme on le fait, quoi.
C'est ça. Parce qu'en fait, on a pris des mauvaises habitudes en ville. On croyait que tout pousse dans l'hypermarché, que les tomates poussent dans le ciel ou je sais pas où. Il y a même des enfants qui savent pas que ça pousse dans la terre. Je peux vous raconter des histoires à propos de ça.
Ah, ils savent pas que...
Non, toujours. Et donc, ils doivent réapprendre les modes de vie en harmonie avec la nature. Mais ça prend du temps. Il faut trouver des lieux de transition, comme on dit. Donc, de réapprendre les modes de vie avec moins de pollution, moins de consommation, avec beaucoup de recyclage, avec de la mutualisation, de la solidarité, etc. Ça sent pas mauvais, au contraire, l'urine, il y a des Suisses qui vendent de l'urine, qui le vendent.
Parce qui vendent de l'urine?
Ils vendent de l'urine synthétisée, 6 fois plus dense, en bouteille, comme vous achetez du coca ou d'autres choses, vous pouvez acheter de l'urine comme un engrais pour le jardin.
Et c'est efficace?
Et c'est efficace, évidemment. Oui. Et donc avant, on le faisait, donc le... maraîchage du 16e siècle, 15e, en fait, ils l'utilisaient comme les Chinois. Les Chinois, ils utilisent toujours les déchets humains, quoi, c'est les déchets de la toilette. Et donc, nous, on doit réapprendre à faire ça correctement.
Comment fonctionne une structure multi-acteurs comme une agrocité? Il nous faut le témoignage d'un habitué des lieux.
Je m'appelle Tayeb, je suis habitant de Bagneux.
Alors, comment ça fonctionne ici?
Ça fonctionne très librement. En gros, il y a des parcelles individuelles et il y a un ensemble de parcelles collectives.
Ah, ça veut dire que, par exemple, si je viens demander une parcelle, on me donne. Si je veux travailler avec un groupe, c'est possible aussi.
Exactement. Vous venez dans le collectif, vous discutez des techniques de permaculture et vous implémentez ces techniques. Et si vous voulez avoir une parcelle individuelle et vous voulez conserver votre terre nue et planter les choses comme vous voulez faire, vous le faites aussi.
C'est-à-dire qu'on utilise les moyens de la nature?
Absolument. On peut rajouter de l'azote dans son terrain en coupant les orties qui sont sur la pente, là, en dessous du terrain. Donc tout ce qui est naturel sera utilisé, même si parfois c'est interdit. Par exemple, pour les orties, je crois que c'est pas très toléré par l'administration. Donc ce lieu, d'un point de vue humain surtout, il est très ouvert, et au niveau de son exploitation, c'est très ouvert aussi, parce que les échanges d'informations, les échanges de savoir-faire, etc., se font entre les personnes, en discutant, en faisant des réunions, et aussi des partages comme ça au quotidien. Voilà.
C'est-à-dire qu'au final, j'apprends une autre façon de produire, un retour à la nature en quelque sorte, et je produis ce que je consomme.
Tout à fait, je produis ce que je consomme et j'en donne aussi aux autres, parce qu'en fin de compte, les gens... les gens, finalement, sur leur petite parcelle, ont mis beaucoup, beaucoup de choses, et ça produit énormément. Il faut savoir que la permaculture, elle permet de produire avec moins de travail, moins d'arrosage, et finalement plus en termes de rendement qu'une agriculture traditionnelle. Et donc ici, on le constate, il y a des gens qui ont vraiment, avec 3 pieds de tomates, trop de tomates pour eux-mêmes, et qui sont obligés de demander aux voisins s'ils n'en veulent pas, quoi. Et ce que je veux dire aussi, c'est, en dehors de la production, il y a quand même, ce qui me paraît essentiel, c'est l'échange qu'il y a entre les gens, et cette communalité qui se crée. J'entends par communalité, c'est... cet esprit village, cet esprit, on vient là, on discute, on entreprend des choses ensemble et on échange parfois sur d'autres sujets que le jardin.
Techniquement, nous voilà au cœur du sujet. Même la définition que donne le dictionnaire n'est pas facile à comprendre. La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes, par exemple des habitats humains et des systèmes agricoles, en s'inspirant de l'écologie naturelle et de la tradition. Par chance, il y a Florence Legendre qui est spécialiste de la permaculture.
Alors, je m'appelle Florence, je fais partie de l'association Bagneux Environnement, qui est une des associations locales qui s'est investie dans le projet au départ.
Alors, la permaculture, ça consiste en quoi?
Souvent, on a un peu un abus de langage en disant, en parlant de permaculture, en parlant de techniques de jardinage. Et en fait, la permaculture, si on veut rester fidèle à sa définition d'origine, c'est une méthode qui nous permettent de faire le design d'un espace, donc de placer des éléments de manière logique et intelligente pour obtenir le plus de résultats possible, tout en prenant soin de la terre et en prenant soin des hommes.
C'est-à-dire que je construis ma maison en conséquence, et quand je veux cultiver, soit je fais du compostage, soit je fais... En tout cas, c'est tout un système de vie intégré.
C'est ça. Le jardin, il n'est pas décorrélé, par exemple, des toilettes sèches, puisque quand on a un potager, on va prélever de la matière quand on mange des tomates, on enlève une partie des richesses qui étaient dans le sol au départ, on va les manger. Et si, à un moment, il n'y a pas un retour de cette fertilité-là dans le sol, là où on l'a prise, eh ben, le sol, petit à petit, il s'appauvrit dans ses éléments essentiels. Ce qu'il y a de plus efficace, c'est d'imiter la nature, parce qu'elle est capable de faire pousser un arbre sans avoir besoin de l'arroser tous les 3 jours. Il supporte très bien ça. Oui. Et nous, on essaye de s'échiner à cultiver quelques plantes. On doit les arroser tous les jours. On est contraint de leur faire des ombrages parce qu'elles ne supportent pas le soleil. Elles sont très fragiles. Elles sont malades au moindre insecte qui passe. Et en fait, c'est parce qu'on a vraiment, éloigné les plantes de ce qu'elles étaient à l'origine. Et aujourd'hui, elles sont très faibles et elles sont assistées. En fait, s'il y a une chose qu'il faut qu'on retienne dans des techniques qui respectent les principes de la permaculture en jardinage, c'est la base de tout, c'est la terre. Et si ma terre, elle n'est pas en bonne santé, je ne pourrai jamais avoir des légumes en bonne santé qui produisent beaucoup. Donc il y a une considération qui doit être constante de protéger la vie de son sol.
Et de l'autre côté, il y a, je vois ces pièces rouges là, c'est quoi ?
Là, on passe dans la partie des parcelles individuelles. Et là, on peut voir du coup quelqu'un qui a bien suivi les conseils de il faut pas que son sol soit nu.
Ah, il faut pas que le sol soit nu.
Alors voilà, autant que faire se peut, il faut que le sol, il ait toujours sa petite protection. Les habitants du sol supportent pas en fait d'être exposés ni à la lumière directe du soleil, et ils ont besoin d'une certaine humidité.
C'est-à-dire que si les vers de terre, tous ceux qui sont dedans ont estimé de s'enterrer, et ce n'est pas sans raison.
Oui, et alors il n'y a pas que les bêtes visibles, mais il y a énormément de bactéries et de champignons qui vivent dans le sol et qui sont essentiels à la croissance des plantes. Donc l'idée de couvrir le sol, c'est à la fois de protéger de la lumière tous les habitants du sol qui vont le faire que c'est un sol vivant. Donc on les protège et on garde l'humidité du sol. Ça évite qu'il s'assèche, parce que s'il est complètement découvert, avec le soleil, il va y avoir beaucoup d'évaporation de l'eau. Il va sécher en fait, tout simplement.
Oui, oui.
Et on est obligé de l'arroser tout le temps du coup. Oui. Et donc en arrosant, on va avoir tendance plutôt à lessiver les nutriments qui étaient en surface et à les amener dans le sol.
Par exemple, quand je vois la grosse machine là qui arrose, là, je lessive tout, quoi.
Bah, si le sol a été à nu, donc il est pas en bonne santé, les nutriments ont pas été bien attachés, on va dire, à la surface du sol.
Mmh.
Et donc à la moindre pluie, tout ça va être emporté vers les couches plus profondes du sol et donc moins accessibles aux plantes.
Ah oui, ça va être loin des racines des plantes.
Et ça, c'est le rôle des vers de terre, par exemple. Son rôle, ça va être de fixer les éléments nutritifs qu'il y a dans le sol et de les laisser à la surface. Et donc, si on favorise toute cette vie du sol, on favorise en fait que ces éléments nutritifs, ils restent à disposition des plantes pour pousser. Sinon, ça part dans les rivières, ça part dans les nappes, c'est lessivé, on dit.
Je vous remercie.
Merci.
Nous étions en compagnie des responsables et des animateurs de la structure Agrocité, une expérience d'agriculture urbaine à Bagneux, à quelques kilomètres dans le sud de la ville de Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Enfin, pour ceux qui veulent écouter cette émission sur leur téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.